Welcome to the Voice of America in French.
Bienvenue. La Voix de l'Amérique, service francophone vers l'Afrique.
Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30 PU et tous les soirs à 18h30 PU.
Et sur Internet à www.lavoixdelamérique.com.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Nous sommes le samedi 3 janvier 2015. Un opposant gambien a été interpellé à Dakar au Sénégal par la police 4 jours après l'attaque armée ayant visé le palais présidentiel à Banjul. Cheikh Sidia Bayo a été arrêté très tôt ce samedi dans un quartier résidentiel et gardé dans un commissariat de la capitale sénégalaise. Félice Yepassis Zembrou.
L'information a été confirmée à l'agence France Presse par l'avocat de Cheikh Sidia Bayo, qui a indiqué que l'interpellation de son client avait eu lieu dans un hôtel de Dakar. Cheikh Sidia Bayo, critique contre le régime du président Yahya Jammeh, réside actuellement en France, où il est né et séjourne régulièrement au Sénégal, seul pays ayant des frontières terrestres avec la Gambie. Il avait déclaré dans la presse sénégalaise mardi, jour de l'attaque contre le palais présidentiel à Banjul, que cet assaut était un début de mutinerie qui s'est transformé en tentative de prise du pouvoir. Le président Jammeh a démenti dans la nuit de mardi à mercredi une tentative de putsch et évoqué une attaque de terroristes soutenue par des puissances étrangères, évoquant des dissidents basés aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. Cheikh Sidia Bayo risque d'être expulsé du Sénégal, a craint son avocat, précisant ne pas avoir été informé des raisons de cette interpellation.
Et sur la même affaire, la Guinée-Bissau a démenti la présence sur son territoire d'auteurs présumés de l'attaque du 30 décembre contre le palais du président gambien Yahya Jammeh et a condamné cet assaut. Cependant, le président de la Ligue Bissau-Guinéenne des droits de l'homme, Louis Vaz Martins, a affirmé à l'AFP que de sources sûres, au moins un militaire gambien présumé avoir participé à cette attaque avait été arrêté en Guinée-Bissau sans donner plus de détails. En Ouganda, un général dissident récemment rentré au pays après 16 mois d'exil a été assigné à résidence. Le général David Seyusa, ex-coordonnateur des services de renseignement, présenté désormais comme un rival sérieux du président Yoweri Museveni, a été arrêté pour imposer la discipline. Selon un porte-parole du gouvernement, David Seyusa Tinufoza avait quitté l'Ouganda en avril 2013 après avoir affirmé dans une note confidentielle que le président Museveni, au pouvoir depuis 1986, préparait sa succession en faveur de son fils Muhoozi Kainerugaba et prévoyait de faire assassiner ceux qui s'opposeraient à ce projet au sein du régime.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
L'épidémie d'Ebola peut être jugulée cette année, affirmation de l'ancien responsable de l'ONU en charge de la lutte contre la fièvre hémorragique, Anthony Bamburi, avant de quitter ses fonctions hier à Accra, a dit que des progrès significatifs ont été faits, mais il a ajouté que la crise est loin d'être terminée, soulignant que seul l'objectif zéro cas d'Ebola est acceptable. Anthony Bamburi cède son fauteuil à la tête de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola à Ismaël Oud Cheikh Ahmed. L'infirmière écossaise atteinte du virus et en traitement dans un hôpital londonien est dans un état critique. Le London's Royal Free Hospital a déclaré ce samedi que l'état de Pauline Kafferki s'est détérioré au cours des 2 derniers jours. La patiente avait fait du bénévolat en Sierra Leone le mois dernier avant de tomber malade. Elle est revenue en Grande-Bretagne le 28 décembre et a été diagnostiquée du virus 2 jours plus tard. Un ressortissant libyen, membre présumé d'Al-Qaïda, est mort quelques jours avant son procès à New York. Abu Anas al-Alibi est accusé dans l'affaire des attentats de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie qui ont fait plus de 200 morts. Son avocat a fait savoir qu'il souffrait de l'hépatite C et d'un cancer du foie à un stade avancé. Le décès de Abu Anas al-Alibi est survenu vendredi dans un hôpital de la région de New York. Son procès était prévu pour le 12 janvier. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, place à la suite de nos programmes et nous nous retrouvons dans environ une heure.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
On Bonjour à tous, Bagassi Courant, lieu et place de Camille Gros-Didier pour cette édition de Carrefour Science et Santé, spécialement dédiée aux événements marquants de l'année 2014 en sciences et en santé. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ce programme également sur le réseau Afrique Santé de VOA Afrique. Quelques titres tout d'abord. L'année 2014 a été marquée sur le plan sanitaire par le virus Ebola. On l'a appris en septembre, un médicament utilisé jusqu'à présent pour combattre le VIH, le virus qui cause le sida, semble efficace contre la fièvre hémorragique à Ebola.
Alors ces kits ils contiennent exactement des gants, des masques, une blouse, ils ont du savon, du chlore et quelque chose pour un spray et également des instructions sur comment utiliser le matériel.
Michel Joseph aura tous les détails. Une équipe d'archéologues a mis à jour sur le site préhistorique de Tourville-la-Rivière en France les vestiges d'un pré-néandertalien.
Nous avons retrouvé trois ossements qui appartiennent à un même bras gauche. Il s'agit de l'os du bras, d'abord l'humérus, et les deux os de l'avant-bras, le radius et l'ulna.
Jean-Philippe Fèvre, préhistorien du CNRS de l'Université de Bordeaux, nous en dira plus. A été marqué par l'apparition de l'épidémie d'Ebola. La maladie apparue d'abord en Guinée s'est propagée dans plusieurs pays du monde. Ebola a fait en un an au moins 7890 morts sur un total de 20171 cas enregistrés dans les trois pays les plus touchés, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, selon le dernier bilan de l'OMS. La maladie est très difficile à combattre. On commence donc avec une bonne nouvelle sur le front de l'Ebola. Michel Joseph nous en dit plus.
Alors que l'épidémie prend de l'ampleur en Afrique de l'Ouest, un médecin d'une région rurale du Libéria affirme avoir obtenu de bons résultats en traitant les victimes de cette fièvre hémorragique avec un médicament utilisé jusqu'à présent pour combattre le VIH, le virus qui cause le sida. En désespoir de cause, faute de pouvoir offrir autre chose aux malades qui se présentaient devant lui, le docteur Gorby Logan a donné ce médicament, la lamivudine, à 15 victimes de l'Ebola. Tous, sauf deux, ont survécu, soit un taux de mortalité approximatif de 13%. Par contre, dans le reste de l'Afrique de l'Ouest, le taux de mortalité du virus à Ebola est chiffré actuellement à 70%. Les patients qui ont survécu ont été traités rapidement dans les 5 premiers jours après l'apparition des symptômes. Les deux malades qui sont décédés ont pris la lamivudine dans les 5 à 8 jours après le début des symptômes. À noter que la lamivudine peut avoir des séquelles, notamment entraîner des déficiences du foie. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de vie ou de mort, plus question d'hésiter. Comment le docteur Logan a-t-il eu l'idée d'utiliser la lamivudine? C'est en lisant dans une revue scientifique que le VIH et l'Ebola se reproduisent dans le corps de la même façon. Il a d'abord essayé un autre médicament contre le VIH, l'acyclovir, mais sans résultat. Il s'est alors tourné vers la lamivudine. Le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a demandé à CNN de fournir son adresse e-mail au docteur Logan pour qu'il prenne contact, signale la chaîne de télévision. Le docteur Logan comptait prendre contact dans les plus brefs délais.
Toujours concernant l'épidémie d'Ebola, les ministres de la Santé de la Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée ont participé début janvier à une réunion avec des experts internationaux sur les moyens à engager pour reconstruire les systèmes de santé de ces trois pays qui comptent la plupart des 6388 décès par Ebola à cette période. C'était à Genève, au siège de l'Organisation mondiale de la santé. Pour les ministres africains, cette reconstruction coûtera des millions de dollars et prendra plusieurs années. En fait, pour le ministre guinéen Rémi Lama, il faudra au minimum 5 ans et 300 millions de dollars à son pays, la Guinée, pour avoir un système de santé fort pour répondre à une éventuelle épidémie. L'ONG Médecins sans frontières est également d'avis que l'épidémie est en train de mettre à rude épreuve les systèmes de santé déjà très faibles et d'aggraver des crises de santé existantes comme le paludisme ou la mortalité maternelle. Je vous propose d'écouter Dr Marie-Paul Phillips de Médecins sans frontières.
Oui, la situation des systèmes de santé est assez différente selon l'endroit où on se trouve. Donc, par exemple, le Liberia et le Sierra Leone ont eu vraiment beaucoup de difficultés de garder les services de santé ouverts lorsqu'en Guinée, le système continue à fonctionner, même si c'est au ralenti. Donc, l'Ebola est à la base d'une crise de confiance dans le système de santé. Beaucoup de patients ont peur de fréquenter les services de santé, peur de se faire infecter, et donc ils attendent trop longtemps avant d'aller chercher de l'aide. Et donc, beaucoup de gens semblent ne pas trouver à temps le chemin vers les services de santé. Également, il y a un problème, en effet, que certains services de santé se sont plus ou moins arrêté de fonctionner. Donc il est pour le moment très difficile pour une femme qui doit accoucher et qui va avoir des complications de trouver un endroit où elle peut se faire soigner et avoir son enfant en toute sécurité. Donc beaucoup des hôpitaux sont fermés et beaucoup du staff médical n'est pas présent. Il y a aussi des médicaments sur place. Le système de distribution est assez perturbé.
L'émergence d'Ebola est-elle alors un reflet de la dégradation des systèmes de santé?
C'est-à-dire que c'est la réponse à l'épidémie de l'Ebola a été handicapée fortement par l'état pré-Ebola des services de santé. Donc les systèmes de santé ont été sous-financés pendant des années et il y a un manque cruel de personnel de santé, surtout au Liberia, au Sierra Leone. Donc, cette faiblesse, je dirais, des systèmes de santé se fait ressentir au moment où une réponse doit être donnée à une épidémie. C'est le cas pour une épidémie d'Ebola, mais c'est aussi le cas pour une épidémie de rougeole ou de méningite ou de choléra. Donc, il faut mobiliser à ce moment. Et quand il y a peu de réserves, hein, peu de médicaments, peu de personnel disponible, c'est très difficile de réagir de manière efficace.
Mais en même temps, est-ce que cela est dû au fait que la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a été privilégiée tant par les politiques nationales qu'internationales?
Non, je ne pense pas vraiment, parce qu'on pourrait dire que dans les trois pays qui sont maintenant affectés le plus par la crise de l'Ebola, en fait, il y a beaucoup à faire encore dans le VIH. La couverture du traitement n'est pas aussi bien qu'en Afrique australe, par exemple. Et donc, honnêtement, en fait, je pense que même en Afrique australe, ce qu'on a vu, ce qui était très positif, c'est que les systèmes de santé se sont réorganisés en face de ce nouveau défi. Maintenant, je pense que c'est le tour à l'Afrique de l'Ouest de se réorganiser en face du défi de l'Ebola. Je pense que c'est vraiment un problème fondamental que les systèmes de santé n'ont pas reçu les moyens pour fonctionner correctement. Et donc, c'est aussi bien en termes de ressources domestiques que de l'intérêt des bailleurs de fonds. Le niveau de financement pour la santé a été vraiment en dessous de ce qui est accepté comme un niveau minimum pour bien fonctionner.
Quoi faire maintenant pour pallier ces difficultés?
Donc, ce qui est très important, en premier lieu, de vraiment s'attaquer au problème de l'épidémie de Ebola. Donc, le système de santé doit être, sur le court terme, tout à fait supporté et appuyé pour faire face à l'Ebola.
Docteur Marie-Paul Phillips de Médecins sans frontières était jointe en Belgique. L'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola a profondément affecté l'Afrique de l'Ouest tout au long de 2014. Notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara, revient sur son impact en Guinée. On suit sa rétrospective.
C'est une année dite d'Ebola qui s'achève en Guinée. En février, un virus inconnu fait son apparition dans le sud du pays. Deux mois après, les laboratoires de Lille en France confirment la présence de Ebola. Déjà, on parle de plusieurs morts à Guéquédou, ensuite à Macenta, et l'appellation change. Maintenant, c'est une épidémie, car de nouveaux foyers, de nouvelles chaînes de contamination sont identifiées jour après jour. La nouvelle fait le tour du pays. Certains vont jusqu'à abandonner la politesse de serrer les mains. D'autres deviennent accros des gels antibactéries. Situation empire, on annonce plus de 100 morts, il faut réagir. Le gouvernement guinéen lance une riposte, le président Alpha Condé s'adresse aux Guinéens.
Guinéens, chers compatriotes, mon gouvernement et moi-même sommes très préoccupés par cette épidémie qui touche notamment les couches les plus actives du pays, parmi lesquelles les personnels de la santé. C'est pourquoi je tiens à rassurer les populations que grâce à l'appui de la communauté internationale, toutes les dispositions sont prises pour lutter efficacement contre cette épidémie.
Sur le terrain, les partenaires comme Médecins Sans Frontières s'occupent des centres de traitement et d'autres comme la Croix-Rouge sensibilisent et organisent le ramassage des corps et l'enterrement sécurisé. Mais après quelques semaines, le nombre de victimes augmente, les chiffres sont au-delà de 200 morts et plus de 500 cas. Conakry renforce la riposte et le président Condé met en place la coordination nationale de riposte contre Ebola. La Guinée devient célèbre, mais tristement, ses fils et filles tombent tués par Ebola. Des aides arrivent. Argent, véhicules, kits sanitaires et formations sont enregistrés, mais le pays est stigmatisé, un peu isolé. La Côte d'Ivoire, le Sénégal ferment leurs frontières. Le ciel guinéen est de nouveau traversé par des vols, mais les mesures sont renforcées à l'aéroport international Conakry-Bessia et la vigilance démise. Le bilan est lourd, plus de 2000 cas confirmés et plus de 2200 décès selon Médecins Sans Frontières. L'évolution de l'épidémie inquiète la communauté internationale et l'oblige à se mobiliser. Après le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé de la lutte contre Ebola, le secrétaire général de l'institution a visité à son tour la Guinée. Ban Ki-moon est arrivé à Conakry 11 mois après l'apparition du virus Ebola. 11 mois d'épidémie avec des conséquences sur la vie des Guinéens. Sur le plan politique, pas d'élection communale initialement prévue cette année. Ebola est politique. Sujet commenté dans la capitale.
Dans les conditions normales, tout peut se faire. Aujourd'hui, les gens continuent à aller au marché. Il y a plus de monde au marché aujourd'hui qu'il y aura de file le jour des élections.
Il serait très compliqué de tenir des élections dans la mesure où Ebola, à ce jour, est la préoccupation principale des autorités.
La priorité, selon moi, du gouvernement, c'est la rentrée scolaire. On sait que Ebola, ça fait depuis le début de l'année déjà, Ebola est en Guinée. Donc tout le monde se bat pour que vraiment que cette maladie parte définitivement. En ce qui concerne les élections, on a peu de chances qu'elles se tiennent en 2015.
Au-delà des morts, l'économie du pays est touchée. Le déficit budgétaire est de 120 millions de dollars selon la Banque mondiale. L'impact de Ebola est ressenti partout. Le pays a été privé du pèlerinage à la Mecque. Les écoles restent encore fermées. L'équipe nationale s'est qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations en jouant toutes ses rencontres à l'étranger. Et surtout, reste la délicate prise en charge, mais une prise en charge psychosocio-économique des victimes et familles des victimes d'Ebola. Malheureusement, les Guinéens terminent 2014 avec Ebola. Inutile de leur demander les vœux de nouvel an. Ebola dégage, disparaît, repart. Des sentiments unanimement partagés en Guinée. À l'image de cette chanson interprétée par un collectif d'artistes guinéens. Ebola, fait majeur en Guinée en 2014, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
Le virus de Marburg frappe en Ouganda. Plusieurs personnes ont été placées en octobre sous observation par le ministère ougandais de la Santé par crainte qu'elles aient contracté le virus de Marburg, un virus de la même famille que celui qui provoque la fièvre hémorragique à Ebola, Anne Alberson.
Un technicien en radiographie âgé de 30 ans et qui travaillait à l'hôpital Mengo de Kampala est décédé de la fièvre hémorragique à virus de Marburg le 28 septembre. Selon le ministère de la Santé, cité par l'agence France-Presse, 3 personnes ayant été en contact avec ce patient ont été isolées et restent sous surveillance. 2 sont détenus à Entebbe, tandis que la troisième, un garçon de 7 ans, est dans une salle d'isolement à Mpigi, à environ 35 km de Kampala. Une centaine d'autres Ougandais sont également surveillés, mais moins étroitement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le virus de Marbourg figure parmi les agents pathogènes les plus virulents chez l'homme. Comme celui d'Ebola, il se transmet par contact avec les fluides corporels. Les personnes contaminées par le virus de Marbourg connaissent très rapidement une forte fièvre, suivie de diarrhées, vomissements et hémorragies sévères. Le virus de Marbourg est endémique dans plusieurs pays d'Afrique. Il a une période d'incubation de 21 jours. Son taux de létalité varie de 25 à 80% selon les épidémies. D'après l'OMS, il n'existe ni vaccin ni traitement. En octobre 2012, une épidémie de fièvre à virus de Marbourg avait fait une dizaine de morts sur une vingtaine de cas confirmés en Ouganda. Le président ougandais Yoweri Museveni a lancé un appel au calme, appelant ses compatriotes à la vigilance. Mais il leur a également demandé d'éviter les poignées de main pour enrayer la contagion. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, région qui partage une longue frontière avec l'Ouganda, les autorités ont renforcé les mesures préventives, signale Radio Okapi. Nous avons donné l'ordre que les agents du service de l'hygiène publique, qui détiennent des thermomètres laser, soient placés au premier plan, au niveau des postes frontaliers de Bunagana, d'Ishasa, de Muniaga et de Kitagoma. Ceci de manière à pouvoir passer tout le monde qui arrive au contrôle, a indiqué à Radio Okapi l'administrateur du territoire de Rutshuru, Justin Mukanya.
Amis terriens, voici une mise en garde émise par l'éminent scientifique britannique Stephen Hawking. Pour lui, l'intelligence artificielle pourrait mettre fin à la race humaine. Dans une interview à la BBC, l'astrophysicien qui souffre de la maladie de Charcot et parle depuis 20 ans grâce à un logiciel avertit du danger que représente, selon lui, le développement des robots, Jacques Aristide.
Voici notre avenir. À une époque où l'homme est devenu dépendant des robots pour satisfaire le moindre de ses besoins.
Vous vous souvenez de AI, Artificial Intelligence, ce film de Steven Spielberg sorti en 2001 dans lequel les êtres humains vivent en parfaite harmonie avec des robots créés pour répondre à leurs besoins.
Plus intelligent, plus sensible et plus humain.
Eh bien, méfiez-vous des robots. D'après Stephen Hawking, ce type de technologie pourrait évoluer rapidement et dépasser l'humanité. Un scénario plutôt comparable à celui des films Terminator.
Je savais que ça arriverait. Mais je ne sais pas si nous pouvons gagner cette guerre.
Le professeur Hawking, âgé de 72 ans, et qui se déplace en fauteuil roulant, affirme que les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles. Mais une fois que les hommes auraient développé l'intelligence artificielle, elle décollerait seule et se redéfinirait de plus en plus vite, prévient Stephen Hawking, considéré comme un des plus brillants scientifiques vivants. Bref, pour lui, les humains limités par une lente évolution biologique ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés.
Les machines nous surpassent en nombre.
Et quant à sa voix robotique, Stephen Hawking ne veut pas la remplacer par une version plus naturelle, avec un accent britannique, malgré les progrès dans le domaine des synthétiseurs vocaux. Une façon pour l'homme, pourtant scientifique, de résister au développement technologique et dire non à la fin du monde.
La science va créer un nouvel ordre.
En gros, son message est clair comme l'eau de roche. Il faudra savoir, dans un monde futur, empêcher les robots de sonner le glas de l'humanité.
Si on continue, on est mort. On est tous morts.
Tu ne me tueras pas.
Une équipe d'archéologues de l'Institut de recherche archéologique préventive l'INRAP a mis à jour sur le site préhistorique de Tourville-la-Rivière en Seine-Maritime les vestiges d'un pré-néandertalien. Les fossiles humains du Pléistocène moyen, c'est-à-dire entre environ 781 000 et 128 000 ans avant notre ère, restent extrêmement rares en Europe du Nord-Ouest. Pour plus de précision, on écoute Jean-Philippe Fèvre, préhistorien au CNRS, Université de Bordeaux, l'un des responsables de ces fouilles.
On a fouillé sur ce site de Tourville-la-Rivière parce qu'il est implanté dans une carrière qui exploite des sables et des graviers. Et en fait, préalablement à la phase finale d'exploitation de la carrière, il fallait mener une fouille préventive. C'est obligatoire. Donc, on savait que ce site de Tourville-la-Rivière allait livrer des ossements d'animaux et des silex taillés. Parce que c'est un site qui est connu depuis les années 1960 pour les collections paléontologiques et les silex taillés qui ont été découverts. Donc, il était anticipé que des découvertes allaient être faites préalablement à cette phase finale d'exploitation de la carrière. C'est pour cela que nous, archéologues, nous sommes venus là-bas.
Vous avez découvert donc les vestiges d'un pré-néandertalien. Qu'est-ce que vous avez trouvé et comment vous avez pu dire que c'était un pré-néandertalien ?
Le contexte sur lequel nous intervenons correspond à une phase de la préhistoire qu'on appelle le paléolithique moyen ancien. Le niveau sédimentaire qui livre des silex, des ossements d'animaux et qui nous a livré ces fossiles humains est daté d'environ 200 000 ans.
D'accord.
Pour une telle période et pour ce territoire qui est le nord-ouest de la France, la seule humanité qui est représentée à ce jour, c'est l'humanité néandertalienne. Donc, si on devait trouver des restes humains, il était quasi évident qu'ils se rapportaient à la lignée néandertalienne.
Et pour terminer, à l'heure où les États-Unis font face pour la énième fois au sempiternel débat sur les bavures policières et le racisme, tout n'est pas noir ou blanc, littéralement. Une nouvelle étude à laquelle ont participé 160 000 Américains fait état de la complexité du mélange racial et ethnique aux États-Unis. Un survol de la carte génétique des Américains avec Jacques Aristide.
Une nation d'immigrants, c'est ainsi que les Américains décrivent volontiers leur pays. La majorité d'entre eux n'a qu'à remonter seulement de quelques générations pour retracer leurs ancêtres, venus d'ailleurs, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest ou du Vietnam, de l'Allemagne ou encore du Mexique, qu'ils soient blancs ou africains-américains, hispaniques ou asiatiques. Ça, ce sont les catégories raciales, mais pas si vite. Tout n'est pas aussi limpide et restreint. C'est du moins l'une des conclusions d'une enquête menée par 23andMe, une entreprise californienne engagée dans le dépistage génétique. Sa principale directrice de recherche, Joanna Mountain.
Des centaines de milliers de personnes nous ont fourni leur information génétique et ont aussi répondu à un questionnaire pour savoir comment elles s'identifient elles-mêmes, où sont-elles nées, ainsi de suite. Et grâce à toutes ces données, nous avons créé un portrait génétique des États-Unis.
L'enquête indique que les membres des principaux groupes ethniques du pays ne peuvent pas se fier aux noms qui leur ont été attribués pour établir avec certitude d'où ils viennent exactement.
Les Africains-Américains, les Américains d'origine européenne et les Hispaniques peuvent avoir des racines génétiques de l'une de ces trois régions continentales et même de toutes les trois.
1 sur 30 Américains qui s'identifient comme blancs est d'ascendance africaine d'un ou de plus d'un pour cent. Chez les Africains-Américains, il est plus fréquent de trouver une origine européenne, soit environ 25% de leur ADN, ce qui reflète en partie l'histoire d'hommes blancs ayant eu des rapports sexuels avec des femmes noires esclaves dans les 18e et 19e siècles.
En fait, les données génétiques que nous étudions collent avec les interactions qu'il y a eu entre les différents groupes il y a des centaines d'années de cela.
Ce décryptage génétique, qui a été publié en ligne par la revue American Journal of Human Genetics, indique également que l'ADN des Hispaniques est composé de près de 2/3 d'ascendance européenne. Une mise en garde toutefois, les personnes qui ont pris part à l'enquête... de la firme 23andMe ne sont pas nécessairement représentatives de tous les Américains.
Ainsi s'achève cette édition de Carrefour Sciences et Santé de VOA Afrique. Au micro, c'était Bagassi Koura, en lieu et place de Camille Gros-Didier. Je vous remercie de nous avoir suivis.